L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. S'il y a un avantage d'avoir un podcast, il y en a plein, c'est entre autres de voir les sujets qui intéressent et ceux qui intéressent moins les personnes qui écoutent. Et si l'écologie, ça a été un sujet qui a énormément intéressé et qui pour moi me semble essentiel, j'en ai fait un livre, aujourd'hui je vois bien que c'est un sujet qui n'intéresse plus personne. Mais par contre, ce que j'observe aussi, c'est que la géopolitique, ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on va parler de la géopolitique climatique, la géopolitique de l'écologie justement, un sujet auquel vous aviez sans doute jamais songé, j'imagine, vous avez jamais envisagé l'écologie comme une révolution industrielle, l'écologie comme un outil de puissance, et pourtant c'est exactement ce qui est en train de se passer entre les grands blocs, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis et l'Europe. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir David Jayes, qui est co-auteur d'un livre qui s'appelle La Révolution Obligée, et il l'écrit avec un géographe qui s'appelle Xavier Desjardins. Et avec David, on va vraiment parler des différents modèles, des limites, de pourquoi depuis les années 70 on n'a pas fait grand chose, et vous allez voir comment la Chine s'est mis en ordre de marche, comment les États-Unis se sont mis en ordre de marche d'une manière ou d'une autre, alors avec des stratégies qui sont très différentes entre la Chine et les États-Unis, et comment l'Europe peut se mettre en marche. Et donc c'est un discours qui est positif, pas positif dans le sens où on va dire tout va bien se passer, ça va être génial, c'est pas ça, mais plutôt de se dire en fait c'est une révolution industrielle qu'on est en train de vivre, l'écologie est un outil de puissance et il faut sortir de ces logiques que l'écologie c'est forcément punitif, que l'écologie c'est forcément l'austérité, ça peut être autre chose. Et je vous invite à écouter cet épisode, je pense que ça va beaucoup vous plaire, ça va vraiment vous intéresser, je vous laisse l'écouter, allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour David, comment ça va ?
Bonjour Greg, content de te retrouver.
Bah ouais, ça fait un petit moment quand même qu'on s'est pas parlé sur ce podcast.
Oui, mais j'ai l'impression que tu rythmes ma vie. Parce que les moments où je sors des livres, c'est des moments importants pour moi. Et à chaque fois, tu me fais l'amitié et l'honneur de me recevoir. Souvent parmi les premiers d'ailleurs.
Ouais, complètement.
Et j'en suis très heureux. C'est une sorte de présence, une sorte de scansion dans ma vie.
On va parler, alors, de manière assez intéressante, et d'ailleurs c'est une information que tu n'as pas nécessairement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je remarque que désormais, quand je parle d'écologie sur mon podcast, les épisodes, ils ont beaucoup moins de succès. En fait, ça n'intéresse plus personne. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si ça intéresse personne, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a encore un an ou deux, les gens, ils adoraient les épisodes sur l'écologie. Aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, ces épisodes-là, ils n'ont plus de succès. J'aimerais bien avoir ta réaction sur ce truc.
Tu n'es pas le seul à dire ça. J'ai discuté avec plusieurs patrons de presse récemment, avec des sondeurs aussi, qui m'ont dit que l'écologie ne faisait plus recette. Par exemple, quand un journal fait la une sur un sujet écologique, les ventes sont moindres. Je pense qu'il y a trois raisons qui explique ça. La première, c'est dans notre économie de l'attention, on a une saturation de contenus qui sont liés à l'écologie, alors qu'il y a 5 ou 10 ans, on avait encore un effet de relative nouveauté, de rareté. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir une radio, une télé sans entendre parler de la fonte des neiges ou des glaces, des méga-feux, des inondations, ou bien de la politique climatique de telle entreprise, de tel pays. Donc, on est saturé d'écologie. En tout cas, on est saturé de discours sur l'écologie. Et l'un des paradoxes qui ouvre notre livre avec Xavier Desjardins, c'est pourquoi autant de discours et aussi peu d'actes. On y reviendra tout à l'heure. Mais l'inflation des discours fait que les gens, forcément, prêtent moins l'oreille. C'est comme l'inflation monétaire. Quand les prix augmentent, bah, l'argent vaut moins. La deuxième raison, qui est, à mon avis, conjoncturelle, elle aussi, c'est que nous sommes dans un moment où les conflits classiques, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, ont tendance à recouvrir l'actualité. Et les conflits, c'est toujours des sujets chauds. Telle attaque, tel bombardement, tel missile, ça captive les opinions et c'est une temporalité très courte, d'urgence. Les questions écologiques, les questions climatiques, c'est des questions de long terme, complexes, qui nécessitent une connaissance scientifique. Et agir pour sauver la planète ou sur le climat, c'est prendre des actions maintenant pour dans très longtemps. Donc il n'y a pas cette dimension de chaleur. Et donc quand il y a une sorte de compétition cognitive entre un conflit chaud, une actu chaude et les questions climatiques, c'est toujours l'actu chaude qui l'emporte. Michel Serres, qui était un philosophe que j'aimais beaucoup, il prenait déjà en 1990 l'exemple du duel au gourdin, un tableau du peintre espagnol Goya où on voit deux personnages s'écorcher, s'affronter très violemment à coups de gourdin. Et ils sont tellement concentrés sur le fait de détruire l'autre qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sur des sables mouvants et qu'ils sont tous les deux en train de s'enfoncer. Et c'était une très bonne métaphore, selon Michel Serres, du fait que nous sommes passionnés par nos querelles d'hommes, par nos guerres, par nos conflits, et à être trop absorbés par ces conflits entre les hommes, entre les sociétés, entre les États, nous en oublions que nous sommes en train de détruire notre habitacle, la planète. Une troisième raison, Grégory, si tu me permets,
je te permets.
qui est plus structurelle, et fondamentalement, le livre est une tentative de répondre à ça, c'est que 95% des contenus d'écologie qui sont produits aujourd'hui sont des contenus chiants. Moralisateur, culpabilisateur, doloriste. Bruno Latour, dans un de ses derniers livres, disait on a réussi l'exploit d'être à la fois moralisateur et chiant. En tout cas, l'écologie politique. Quand ouais, zéro, sûr, c'est l'écologie sûr. Politique. Et fondamentalement, le sujet, c'est d'arriver à parler de climat, à parler d'écologie en étant dans le mouvement, dans le désir, dans l'histoire, dans la puissance. Et c'est tout le projet du livre que j'ai écrit avec Xavier Desjardins.
Est-ce que tu crois pas, moi j'aurais tendance à positionner deux, alors il y en a une qui ressemble à ta dernière option. La première, ce serait d'abord parler d'écologie, ça sert à rien, puisque de toute façon depuis les années 70 on voit une inaction totale des politiques, c'est-à-dire que pour reprendre Emmanuel Macron, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, bah, je ne sais pas, a priori il est là, hein, mais il n'est absolument pas écologique. Ou en tout cas, bien sûr, le gouvernement en dira autre chose, mais pour moi, en tout cas de mon point de vue, les efforts qui sont menés, ils sont complètement minimes par rapport à la réalité de la problématique. Et la deuxième, peut-être, c'est aussi que ce qu'on nous vend, c'est l'écologie punitive, l'éco-terrorisme, c'est génial. C'est-à-dire que le gouvernement actuel, qui a donc mis l'écologie au premier rang, nous parle d'éco-terrorisme, comme si c'était possible d'être un écologiste et un terroriste. C'est assez étonnant comme vocabulaire, mais c'est intéressant. Et on nous parle d'austérité, on nous parle d'écologie punitive, alors qu'en réalité, on pourrait, et c'est un ami qui s'appelle Michel Dandrieux, qui est sociologue, qui a fait cet exercice en disant, mais est-ce que l'austérité, c'est pas aujourd'hui finalement? Est-ce que la pauvreté, c'est pas aujourd'hui parce qu'on est pauvre? Tout le monde a envie. Si je demande à toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous avez envie d'être heureux, heureuse? Tout le monde va dire oui, bien sûr. Mais alors pourquoi, en fait, quand on sait ce qui rend heureux, parce que finalement, il y a des tonnes d'études sur le sujet, en particulier celle de Harvard, tu vois, qui est la plus longue étude sur le bonheur, et on sait très bien ce qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est ta santé, c'est la profondeur des liens que tu vas avoir, c'est de trouver de l'impact, c'est de pas être trop stressé, de prendre le temps, etc., etc. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on fait exactement l'inverse. Et finalement, on est pauvre de tout ça, parce qu'on est pauvre d'air sain, on est pauvre d'eau potable sans plastique, on est pauvre de silence, on est pauvre d'espérance de vie, on est pauvre de tout ça. Donc est-ce que l'austérité, c'est pas aujourd'hui, et que demain, finalement, ça pourrait pas être l'abondance de choses qui sont importantes pour notre bonheur? Et tu vois, rien que ce retournement qui est assez simple, finalement, mais que personne ne fait, parce qu'à chaque fois, on est là en train de dire « arrêtez de prendre votre voiture, arrêtez de consommer, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça ». Donc on est toujours dans la punition, on est toujours dans l'austérité, on n'est jamais vraiment dans un discours de générosité. Enfin, tu vois, de se dire « mais en fait, demain, c'est l'abondance ». Tu vois, un petit peu comme dans ce livre, je t'en ai parlé un tout petit peu, mais qui s'appelle Écotopia, qui est des années 70, mais qui est passionnant, ce roman, que je conseille à tout le monde. Tu vois ces deux trucs-là?
Bien sûr, il y a deux questions dans ta question.
Oui, bien sûr, pardon, c'était très long.
La première, c'est pourquoi aussi peu d'action? Alors, je ne dirais pas une action, je dirais des actions désordonnées qui ne nous permettent pas de réussir la transition. On voit bien qu'en Europe, par exemple, les deux formes d'action privilégiées, c'est soit ce qu'on appelle le prix du carbone, taxé...
Combien ça coûte une tonne de carbone?
Parce que... Alors, bah, ça dépend selon quelle méthodologie et où le prix du carbone n'est pas fixé au même endroit partout dans le monde. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que la taxe carbone, elle va de 1 centime dans certains pays à 155 $ en Uruguay.
Ouais. C'est fou. Non, mais rien que ce truc, c'est un
donc,
centime.
En soi, c'est bizarre parce que le carbone, il connaît pas les frontières. Si on voulait vraiment que les gens arrêtent d'émettre du carbone, il faudrait un prix universel, mondial, ce qui est pas possible.
C'est possible, mais il faudrait qu'ils se mettent d'accord.
Oui, c'est à mon avis très, très improbable, en tout cas.
Voilà.
La taxe carbone, les systèmes de prix, hein, les échanges de quotas, les fameux droits à polluer en Europe, ça c'est le premier moyen d'action. Et le deuxième moyen d'action, c'est des normes et en particulier des interdictions. Donc par exemple, interdiction à partir de 2035 de vendre des voitures à essence ou à diesel. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses importantes, c'est même des choses structurantes. Mais effectivement, ça s'inscrit dans une logique qui est celle du moins, qui est celle de la contrainte, qui est celle de la punition, et pas du tout dans une logique qui est celle du progrès. Et donc il faut complètement déplacer les termes. Il faut se demander, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on va enlever, à quoi on va renoncer, il faut se demander qu'est-ce qu'on va gagner. Et c'est difficile de le faire parce qu'on n'a pas les outils, y compris les outils statistiques pour mesurer les gains. Je vais prendre un exemple très concret. Si demain, on incite pour les déplacements de moins de 3 km par jour à faire de la marche à pied ou du vélo, il est évident que les gens qui vont pratiquer la marche à pied ou le vélo, alors qu'avant ils étaient toujours en voiture, qu'ils étaient très sédentaires, ils vont être en meilleure santé. Il faudrait qu'on arrive à mesurer les bénéfices, ce qu'on appelle les co-bénéfices, hein, les co-bénéfices de ces politiques sur la santé publique, sur la santé mentale. Ils sont immenses. De la même manière, si demain on considère qu'on ne peut plus construire des villes qui s'étalent à perte de vue, comme à Los Angeles, où on a des dizaines de kilomètres et on ne peut pas aller faire une course sans prendre sa voiture, mais qu'il faut au contraire faire le pari de la densité, ce que j'appelle l'intensité d'usage, c'est-à-dire que pour un même immeuble, on a plusieurs usages en fonction du moment de la journée. Je prends l'exemple des cantines d'entreprise. Une cantine d'entreprise, aujourd'hui, elle sert lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en moyenne 2 heures, de 12 heures à 14 heures. Le reste du temps, c'est des milliers de mètres carrés dans les grandes entreprises qui ne servent à rien. Pourquoi construire des bâtiments consommer des espaces naturels ou agricoles alors qu'on pourrait rentabiliser cet espace en accueillant par exemple des associations, en accueillant différentes activités
mutualisées,
intensifier l'usage. C'est un exemple très concret, en réalité, de solutions qui nous permettent, en fait, de renforcer le lien social. Parce que si les gens vivent plus près de leur travail pour pouvoir s'y rendre en vélo, si on rentabilise mieux les espaces qu'on habite, bah, les gens vont davantage se croiser. Et donc, on va renforcer le lien social. Donc, on renforce la santé, on renforce le lien social, on renforce la santé mentale. Il y a plein de bénéfices à la transition qu'on évoque presque jamais parce qu'on préfère se focaliser sur les aspects punitifs et aussi parce qu'on n'a pas toujours les instruments pour mesurer concrètement ces bénéfices.
Est-ce que tu connais évidemment cette courbe de l'incompétence ? Donc au début, on est incompétent, mais de manière inconsciente. Au fur et à mesure, on devient conscient qu'on est incompétent. Et puis, au fur et à mesure, on construit une compétence consciente. Est-ce que nos politiques ne sont pas incompétents, mais inconsciemment ? Et d'ailleurs, il y a le directeur de la stratégie d'une très grande entreprise française qui fait 120 milliards de chiffre d'affaires, donc tu vois, c'est un gros truc, qui me disait, en fait, c'est pire que ça, la réalité c'est que nos systèmes, nous, êtres humains, donc au niveau organisationnel, individuel, collectif, nous sommes optimisés à faire l'inverse du chemin, si tant est qu'il y ait une vraie volonté, hein, c'est pas encore dit d'ailleurs qu'il y ait une vraie volonté d'aller dans ce sens-là, mais pour certaines personnes, il y a une vraie volonté d'aller dans ce sens-là quand même, et bien en fait on est optimisé pour faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, et on voit bien à quel point on ne sait pas intégrer l'écologie dans nos équations, on ne sait pas comment faire. Et peut-être que, à l'instar de ce livre d'ailleurs, la solution, elle est dans le co, c'est-à-dire en fait de faire à plusieurs. J'aimerais bien comprendre d'ailleurs comment vous vous complétez avec ton co-auteur.
Ah ben c'est simple, je peux te raconter comment le livre a été écrit.
Ouais.
En fait, mon co-auteur, qui est un type formidable, s'appelle Xavier Desjardins, c'est un grand géographe, grand urbaniste, spécialiste de plusieurs sujets comme la mobilité, la voiture, le foncier, le zéro artificialisation net. Il est prof à la Sorbonne. Et il travaille dans un cabinet, une coopérative qui s'appelle Acadie et qui conseille beaucoup les collectivités territoriales sur leur plan d'aménagement ou d'adaptation au changement climatique. Donc il a cette double casquette d'universitaire et en même temps d'expertise et de consultant. Et on s'est retrouvé il y a 2 ou 3 ans dans un colloque sur le renouveau de la planification et on s'est bien entendu. On a trouvé que nos réflexions avaient beaucoup d'écho. Lui, il est plus géographe, moi je suis plus expert à la fois politique et économique. Mais on avait les mêmes préoccupations, sans forcément venir du même endroit. Et on s'est dit, pour approfondir ces réflexions, pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas un séminaire où on prend des objets de transition très concrets, comme l'eau, la forêt, la voiture, et ces objets, en réalité, on se demande comment est-ce qu'on construit un chemin de transition. C'est quoi une politique de l'eau dans le monde de l'après-carbone et dans le monde de l'après-transition écologique au sens large? C'est quoi une forêt régénérative qui ne va pas simplement être utilisée pour la chasse ou pour le prélèvement du bois, mais qui va aussi servir à être un havre de biodiversité ou à séquestrer du carbone? Donc on s'est posé ces questions très concrètes et on a invité, dans un séminaire fermé, des dirigeants publics, des dirigeants privés et des experts à réfléchir de bonne foi à ces questions. Et on a appris plein de choses. Et on s'est dit, ce serait dommage de laisser ça simplement dans un coin sur une étagère. Faisons-en un livre pour le grand public. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de livre qui s'appelle « La révolution obligée », où on essaie très exactement, pour répondre à ta première question, de montrer que on peut y arriver. C'est une affaire de conduite du changement. Les entreprises, les entrepreneurs connaissent bien ça. Ils ont été confrontés à des disruptions énormes. Quand le digital est arrivé, le monde de la photographie argentique a été disrupté. Il y a des entreprises comme Kodak qui n'y ont pas survécu parce qu'elles n'ont pas su adapter leurs procédés, leurs stratégies, leur organisation. Et il y en a d'autres qui, au contraire, ont prospéré dans le monde du numérique. Nous disons, la thèse très forte du livre, c'est de dire, en fait, la transition écologique, c'est pas un problème de moralisation, de culpabilisation, d'interdiction, de taxes, de normes. C'est-à-dire la façon dont on la présente aujourd'hui, qui est chiante, qui est terriblement ennuyeuse. C'est d'abord une révolution industrielle. C'est une révolution industrielle aussi importante, et peut-être même plus importante, que la révolution du charbon et du train au XIXe siècle. Et cette révolution industrielle, elle va tout bouleverser. Elle va bouleverser notre organisation sociale, nos transports, notre agriculture, la relation entre le public et le privé. Donc il faut prendre comme point de départ qu'on est dans une révolution industrielle et comment est-ce qu'on arrive à accompagner et à conduire au mieux cette révolution industrielle, parce que la différence avec le 19e siècle, c'est que cette révolution industrielle, on n'a que 30 ans pour la faire. Parce que la neutralité carbone et même la neutralité écologique doit être atteinte pour les années 2050. La révolution du 19e siècle, ça commence à la fin du 18e et ça dure jusqu'en 1920 en réalité. Hein? Là, on a 30 ans. Donc c'est une révolution sous contrainte. Et comme on a peu de temps, les pouvoirs publics vont jouer un rôle important, un rôle de stratège, un rôle de planificateur, un rôle d'investisseur aussi. Et donc, le point de départ du bouquin, c'est de dire, si on prend l'écologie comme un problème de révolution industrielle, tout d'un coup, tout s'éclaire et tout change. Ça devient hyper enthousiasmant. Parce qu'il y a plein d'innovations, il y a plein de façons de réinventer le logement, il y a plein de façons d'imaginer les relations entre les hommes dans une société, il y a plein de façons de manger différemment, il y a plein de façons de reconstruire des usines ou de reconstruire une politique minière. Tout ça est passionnant, tout ça est enthousiasmant, mais il faut bien cadrer d'abord ce que c'est que l'écologie comme une révolution industrielle.
Mais en même temps, Et vous en parlez, donc c'est pas une transition, ce que tu dis, c'est d'abord c'est une révolution.
Oui, c'est pas une transition. D'ailleurs, le mot transition, on l'aime pas beaucoup. On est d'accord avec l'historien Jean-Baptiste Fressoz quand il dit que dans le passé, il n'y a pas eu de transition énergétique.
Oui, il n'y a jamais de transition.
Le charbon n'a pas remplacé le bois. Hein? On n'a jamais consommé autant de bois que pour construire les mines de charbon. Et le pétrole n'a pas remplacé le charbon. On continue à consommer. On n'a jamais consommé autant de charbon dans le monde que l'année dernière, en 2023.
On passe un petit coucou à nos amis chinois.
Exactement. Et
allemands.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de transition énergétique. Il y a eu des additions. Là où on a un enjeu majeur, c'est qu'on doit, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'énergie, changer de socle énergétique, c'est-à-dire pas ajouter des couches d'énergie. Sortir des énergies fossiles, donc charbon, pétrole et gaz, pour aller vers un socle énergétique entièrement décarboné, qui s'appuie sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire, sur l'électricité décarbonée, et qui fasse plus de part à la sobriété, bien sûr, hein, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais tu vois que l'opération, fondamentalement, est différente. Ce changement de socle énergétique, c'est une révolution industrielle, pour une simple et bonne raison, c'est que l'énergie, c'est le sang de l'économie et c'est le sang des sociétés. Si tu changes le sang qui circule dans ton corps, bah, tu révolutionnes complètement le fonctionnement de ton corps. Et donc, il est évident que derrière ce changement de système énergétique, on va avoir tout un tas d'innovations, notamment en matière d'efficacité énergétique. Comment est-ce qu'on arrive à produire de l'électricité, de la lumière, comment est-ce qu'on arrive à faire de la viande, à déplacer des trains en consommant moins d'énergie. Donc ça va demander beaucoup d'innovation. Donc le propre d'une révolution industrielle, c'est d'apporter de l'innovation. Et ça va coûter énormément d'argent. Et le propre d'une révolution industrielle, c'est aussi de coûter énormément d'argent en CAPEX, c'est-à-dire en investissement. Le taux d'investissement va très fortement augmenter dans l'économie. Il y a quand même une différence avec la révolution du charbon, outre les 30 ans qui nous restent, c'est qu'il y aura moins de gains de productivité et moins de gains de confort. Parce qu'au 19e siècle, quand on est passé de la malle-poste ou de la diligence au train, tout le monde a vu à quel point on y gagnait. Le train, c'est confortable, ça va 10 fois plus vite, on peut lire, c'est un gain de confort extraordinaire. L'électricité a apporté, on parlait d'ailleurs à l'époque de la fée électricité, ça avait un côté féerique, magique, ça a apporté un confort dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la vie des gens qui est absolument incroyable. Là, on entre dans un monde où les voitures diesel-essence vont être remplacées par des voitures électriques et idéalement, il faut que ces voitures électriques soient moins lourdes, moins bourrées d'options, parce qu'il faut aussi de la sobriété matérielle en plus de la sobriété énergétique. On va entrer dans un monde où l'avion hydrogène, c'est pas du tout garanti qu'on y arrive arrive un jour. Et si on y arrive un jour, ça sera probablement beaucoup plus cher, ça sera probablement des vols de courte distance, avec moins de passagers. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas avoir des gains de confort matériel si on reste dans la définition moderne du confort matériel.
Ouais.
On va plutôt avoir, au contraire, une perte de confort, une perte de bien-être. Donc c'est une révolution industrielle, mais sans les promesses cornucopiennes de bien-être, d'abondance, de croissance et de confort matériel qui était celle du 19e siècle. Donc toute la question, c'est de se demander comment on compense ou on contrebalance cette légère perte de bien-être, parce que je ne veux pas non plus être alarmiste, les gens ne vont pas du jour au lendemain se retrouver dans des cavernes ou à vivre dans des micro-communautés collapsantes.
Ça,
c'est des bêtises. C'est des bêtises qui pourtant se vendent bien en librairie, mais c'est des grosses bêtises. Non, la question, c'est comment est-ce qu'on compense cette légère perte de bien-être matériel par des gains de bien-être collectif, comme on en parlait tout à l'heure, en matière de santé, en matière de lien social, en matière de santé mentale. Et je pourrais prendre plein d'autres exemples.
En fait, en matière de bonheur, en réalité, c'est que moi, je compare ça, en tout cas dans mon livre, d'y faire référence, mais entre le bien-vivre et le bien-être. C'est vrai qu'on va devoir lâcher un petit peu de bien-vivre. Peut-être qu'on n'aura pas 2 voitures par personne. Peut-être qu'on n'aura pas 3 télévisions par maison. Peut-être qu'on n'aura pas 2 téléphones par personne, etc., etc., etc. Mais sans doute qu'on aura un air plus sain, qu'on sera moins stressé, qu'on vivra plus longtemps, qu'on pourra boire de l'eau sans plastique à l'intérieur, etc., etc. Enfin, c'est quand même...
J'ai connu quelqu'un de très riche, je ne citerai pas son nom, mais qui disait souvent il avait de l'humour. Je suis pas heureux, mais je vis bien.
Ouais.
Et ben, je crois que l'objectif de la révolution obligée, dont on parle dans le livre, c'est exactement l'inverse. C'est peut-être de vivre un peu moins bien au regard des standards de confort occidentaux, mais d'être beaucoup plus heureux.
C'est vraiment important parce que je pense que c'est un discours qu'on n'entend pas nécessairement. Alors, quand on réfléchit à ce que tu décris. Vous comparez en tout cas les modèles américains, chinois et européens. Et j'ai évidemment plein de questions là-dessus. La première chose qui m'a semblé hyper intéressante dans le modèle chinois, c'est que ils envisagent d'abord de devenir l'atelier de l'écologie. Alors qu'en fait, pour moi, évidemment, comme ils représentent un tiers de l'impact aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'ils représentent 33% des gaz à effet de serre, l'Europe c'est 7%, je crois de mémoire, ou 7 ou 8%. Donc c'est énorme. À noter quand même qu'il y a énormément d'impacts qui sont déportés, c'est-à-dire que nous, l'impact de la Chine, c'est aussi pour produire beaucoup de choses que nous, on consomme nous-mêmes, hein, bien sûr, donc en Europe. Donc c'est un impact déporté, c'est-à-dire que nous, on a déporté notre impact en Chine et dans d'autres pays par ailleurs. Mais quand même, de se dire qu'ils veulent devenir l'atelier de l'écologie, ça m'a semblé fou. Et en même temps, dans leur stratégie, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas la seule chose, c'est qu'ils ont intégré l'écologie dans la fierté nationale. Et ça, je trouve ça hyper fort. Parce qu'en fait, en réalité, c'est vraiment par là que ça commence. C'est-à-dire que si tu te dis l'écologie peut être un élément de notre puissance nationale, si tu te dis que l'écologie, c'est voilà, demain, nous, on sera les leaders mondiaux du domaine et ça va nous apporter énormément de bonnes choses, de manière générale. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer un petit peu la stratégie chinoise? Et comment ils pensent et comment ils ont déjà mis en place en réalité, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont dessus, parce que c'est